OK, 16h50, Raphaël Jacob, Minneapolis et ce qui s'y passe présentement en réaction à la mort d'un homme qui a été tué là, de sang-froid par un policier blanc. C'est ce qui retient toute l'attention médiatique, sociale, politique aux États-Unis. Puis Donald Trump a trouvé le moyen de pas en parler tantôt.
Ben c'est ça, ça retient l'attention de tout le monde, sauf du plus important élu du pays, pour pas dire du monde, Donald J. Trump. Tu sais, j'aurais aimé ça commencer la chronique en te faisant entendre ce que le président a dit. Il a rien à dire, il a rien dit. La seule déclaration qu'on a eue, elle n'a pas été faite en personne aujourd'hui, elle a été faite aux petites heures de la nuit sur Twitter. Et les tweets de Donald Trump, je crois, méritent cette fois-ci là vraiment d'être lus à voix haute, pas parce qu'ils sont glorieux, au contraire, parce qu'il y a quelque chose de carrément scandaleux dans ce que le président est allé lancer un petit peu passé minuit la nuit dernière. Donc, il est allé déclarer, premièrement, il a commencé sa série tweet en insultant personnellement le maire de Minneapolis, en le traitant de radical d'extrême gauche. Soit dit en passant, tu vas t'en souvenir comme moi, juste pendant la crise de la COVID-19, là, je ne vais pas partir sur une tangente, mais je pense que c'est directement lié à l'argument, là. Donald Trump, à répétition, a été incapable, s'est montré incapable de s'élever et de rester au-dessus de la mêlée, avait traité des élus démocrates avec lesquels il devait travailler dans le contexte de cette crise-là carrément de serpent. Là, dans le cas de cette crise-là, Minneapolis commence par insulter le maire de la ville et là où ça devient peut-être encore un peu plus fâchant, un peu plus presque scandaleux, c'est le tweet suivant qu'il a décoché dans lequel il dit, et je le cite, « Quand on commence à piller, on commence à tirer. » Et ça, ça a été, comme tu le sais sans doute, flagué en bon français par Twitter. On se parlait un petit peu plus tôt cette semaine dans une autre chronique là, du fait que Twitter commençait à intervenir sur le compte de Donald Trump. Ben là, Twitter est encore intervenu, encore une fois, en flaguant en bon français le tweet en disant « Écoutez, on va le laisser, on va pas le censurer, mais on condamne les propos parce que c'est un petit peu une apologie de la violence. » Tu sais, ça vient du président des États-Unis. Dans le contexte où la ville, une des villes les plus importantes du Midwest américain, est en train de brûler, sans faire un mauvais jeu de mots, qu'est-ce que fait le président? Il lance des propos abrasifs.
Mais c'est rien de nouveau, Raphaël. Je veux dire, depuis qu'il est entré dans la vie politique, qui fait ça, c'est son style.
Oui, et écoute, je t'ai donné l'exemple de la crise de la COVID. Oui. Rappelle-toi, ça ne fait même pas un an. Quand on a eu la dispute entre le président et un élu de la région de Baltimore, qui est évidemment à énorme proportion afro-américaine, le président des États-Unis avait traité la circonscription de cet élu-là, une circonscription de son propre pays, le pays qu'il est censé représenter à la grandeur, d'endroits infestés de rats. Tu sais, fait, quand je te dis incapable de s'élever au-dessus de la mêlée alors qu'il y a des moments où on a vraiment besoin de ça, aujourd'hui, malheureusement, tu as raison, ce n'est pas un nouvel exemple, c'est seulement le plus récent exemple. Mais sais-tu ce qui est drôle dans tout ça? C'est que, tu sais, j'y pensais, puis ça fait quelques fois que je te dis que l'histoire américaine est souvent drôlement faite. Aujourd'hui, je me disais, on compare beaucoup, il y en a beaucoup, je ne sais pas si tu as vu ça peut-être sur les médias sociaux, il y en a beaucoup qui ont comparé le fameux tweet de Donald Trump là, sur quand on commence à piller, on commence à tirer, à des déclarations de George Wallace. George Wallace, c'est un politicien ségrégationniste américain du milieu du 20e siècle, très connu, évidemment extrêmement controversé. Et c'était aussi un candidat présidentiel dans une course à trois en 1968. Et en remontant en fait un siècle entier en arrière, là, c'est George Wallace qui a obtenu cette année-là le meilleur score au collège électoral pour un tiers parti. La raison pour laquelle je te parle de George Wallace, c'est pas juste à cause de la comparaison avec Donald Trump. C'est parce que cette année-là, en 68, alors qu'il y avait également des émeutes de nature raciale, qu'il y avait d'énormes tensions raciales aux États-Unis, qui étaient les deux autres candidats des partis majeurs? Ben, le républicain qui a gagné, c'est un certain Richard Nixon, qu'on a aussi beaucoup comparé à Donald Trump. Le démocrate, c'est un certain Hubert Humphrey. Et qui était Hubert Humphrey? C'était peut-être la voix la plus importante du milieu du 20e siècle pour transformer le Parti démocrate en parti anti-ségrégation et pro-droit civique. Et c'était surtout, surtout, un sénateur du Minnesota, avant quoi il avait été quoi? Maire d'une certaine ville nommée Minneapolis.
C'est une ville où il semble que ce soit une ville progressiste, là, comme beaucoup de grandes villes aux États-Unis, mais où il y a beaucoup de problèmes entre la police et les communautés de minorités.
C'est vrai. Puis tu interviewais, écoute, c'était assez remarquable d'ailleurs comme entrevue, là, si je peux me permettre le commentaire éditorial, une francophone qui réside à Minneapolis, qui un petit peu plus tôt dans l'heure, qui disait elle-même que ce sont des problèmes qui sont là depuis quelque temps. Là. C'est pas nouveau en soi, et malheureusement, c'est pas limité non plus à Minneapolis. Mais tu sais, sans y avoir habité, contrairement à elle, j'y suis allé à Minneapolis, j'ai visité la ville, j'ai visité la ville voisine de Saint-Paul, et c'est sans doute, écoute, c'est sans doute un des endroits les plus calmes, pour pas dire les plus ternes aux États-Unis. Quand tu vois un endroit comme ça qui vit ce qu'on est en train d'observer, il y a quelque chose de renversant. Tu sais, ça ne change pas le fait que quand tu vois des émeutes à Chicago, à Los Angeles, c'est également horrible. Mais quand ça arrive dans, oui, une métropole, puis oui, une métropole qui a des enjeux raciaux depuis longtemps, mais qui est à la base quand même beaucoup plus calme, beaucoup plus, entre guillemets, ordinaire et banal, le contraste est encore plus fort. Puis, écoute, j'ai le goût de te laisser un petit peu sur ceci. Tu sais, on se parle de contraste, là. C'est quoi le slogan que Donald Trump lance depuis son entrée en vie, dans la vie politique? Make America great again. Redonner à l'Amérique sa grandeur. Tu sais, Pat, regarde par tes propres yeux, là. Regarde les crises actuelles, pas la crise actuelle, les crises actuelles qu'on avait avant même que tout ce bordel-là à Minneapolis éclate. Là. Le climat dans lequel on était, qui était carrément empoisonné au début de la semaine. Puis regarde où est-ce qu'on en est à la fin de la semaine. Tu sais, à tes yeux, là, l'Amérique, elle a-tu l'air grande présentement?
Mais écoute, elle n'a pas l'air grande, mais ce slogan-là, pour moi, là, ça a toujours... Oui, il y a de la nostalgie, etc. Puis on surfe sur l'idée que l'Amérique est en déclin. Mais ça a toujours été aussi une forme de message codé. Il y a beaucoup de Blancs aux États-Unis qui ont peur de la montée des minorités. Démographiquement, les Blancs vont devenir un groupe beaucoup moins important dans les prochaines années. Et il a capitalisé là-dessus. Hey, Stephen Miller, là, un de ses conseillers, c'est un nationaliste Blanc. Il y a des emails qui ont été exposés, qui ont été révélés. Là. C'est un gars qui... On peut avoir des discussions intelligentes sur l'immigration. Lui, c'est une Miller, un des conseillers de Trump. Une des raisons pour lesquelles il est en politique, c'est la peur des immigrants. C'est la peur des minorités. Et rappelle-toi, quand il y a eu des manifs de nazis en Caroline du Nord.
En Virginie aussi.
En Virginie. Ben, Trump est allé dire qu'il y avait du bon monde des deux bords. Les protestataires et les gens qui manifestaient, qui étaient des néo-nazis. Fait que aujourd'hui, le président des États-Unis... S'il veut antagoniser sa base, là, ben oui, il va commenter sur Minneapolis, puis il va dire à quel point c'est épouvantable ce qui est arrivé à ce monsieur Floyd. Mais s'il veut ménager sa base, il va faire exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Il va rien dire.
Et c'est franchement, franchement triste comme spectacle.
Merci, Raph. On se reparle lundi.
À lundi.
Vous êtes libéré, monsieur Quentin.
Hey, bon week-end, Patrick.
J'ai un clipper, hein? Si vous ne voulez pas attendre jusqu'au 15,
un clipper. C'est une allocation au plus offrant.
Ah, tu peux te faire la job tout seul. Merci beaucoup. Salut. Philippe, bon week-end. OK, on parle de baleine ou de baleine au retour.